Leçon 12, du 11 au 17 juin. Joseph, prince d'Égypte. Samedi après-midi. Texte à mémoriser. Le pharaon dit à Joseph, « Regarde, je te nomme intendant de toute l'Égypte. » Genèse 41, verset 41. Joseph est désormais le chef d'Égypte et ses propres frères vont s'incliner devant lui sans savoir qui il est. Genèse 42. Le frère de Joseph vont s'humilier quand Joseph les obligera à revenir avec Benjamin. Genèse 43. Et quand, en pensant que la vie de Benjamin est menacée, Genèse 44, ils imploreront la grâce de cet homme puissant qu'ils considèrent comme le pharaon. À la fin, quand Joseph révélera son identité, ils comprendront que malgré ce qu'ils avaient fait, Dieu en avait tiré du bien. Chose intéressante, toute cette nouvelle séquence d'événements qui était censée concerner la réussite de Joseph concerne davantage la repentance de ses frères. Leurs allers-retours entre Joseph et leur père, ainsi que les difficultés qu'ils rencontrent, leur ont rappelé leurs actes mauvais envers Joseph et leur père et ils se rendent compte de leur iniquité envers Dieu. Les frères de Joseph vivent toute cette expérience comme un jugement divin. Et pourtant, le dénouement émouvant, au cours duquel tous pleureront de joie, contient également un message de pardon pour eux, malgré leurs actes injustifiables. Dimanche 12 juin, Joseph accède au pouvoir. Pour Joseph, les rêves du pharaon révélaient ce que Dieu va faire. Genèse 41, verset 28, dans le pays. Mais Joseph n'appelle pas le pharaon à croire à Dieu. La réponse immédiate de Joseph est de passer à l'action. Il propose un programme économique. Chose intéressante, le pharaon ne retient que la partie économique du discours de Joseph et semble davantage intéressé par la leçon économique que par la signification spirituelle du rêve et par le rôle de Dieu là-dedans. Lisez Genèse 41, versets 37 à 57. Quelle est la part de Dieu dans le succès de Joseph? Le pharaon choisit Joseph comme responsable, pas tant parce qu'il a interprété ses rêves avec exactitude et lui a révélé le problème auquel le pays allait être confronté, mais parce qu'il avait une solution à ce problème, car sa proposition parut judicieuse. Genèse 41, au verset 37. Avis également partagé par les serviteurs de Pharaon. Le choix du pharaon semble avoir été plus pragmatique que religieux. Et cependant, le pharaon reconnaît que la présence de l'Esprit de Dieu, Genèse 41, verset 38, est en Joseph qui est qualifié de sage et intelligent. Genèse 41, verset 39, expression qui caractérise la sagesse que Dieu donne. Voir Genèse 41, verset 33 et 1 Roi 3, verset 12. Tous les détails rapportés dans le texte biblique correspondent à la situation historique de l'Égypte de l'époque. Politiquement, le fait que Pharaon nomme Joseph vizir n'est pas inhabituel dans l'Égypte antique, où des cas de vizirs étrangers ont été attestés. Les 7 années qui suivirent sont des années d'abondance, à tel point que la production de céréales devient sans nombre. Genèse 41, verset 49, selon la version Darby, signe d'une providence surnaturelle. La comparaison avec le sable de la mer, Genèse 41, verset 49, révèle qu'il s'agit d'une bénédiction divine, Genèse 22, verset 17. Joseph reflète cette bénédiction dans sa propre fertilité, coïncidence qui manifeste la présence du même Dieu derrière les deux phénomènes. Joseph a 2 fils, dont les noms montrent l'expérience de la providence de Dieu qui a transformé le souvenir de douleur en joie, Manassé, et l'affliction passée en fertilité, Éphraïm. Quel exemple fort de la manière dont Dieu a changé le mal en quelque chose de très bon. En quoi les autres devraient pouvoir voir, à partir du genre de vie que nous menons, la réalité de notre Dieu. Lundi 13 juin. Joseph affronte ses frères. Lisez Genèse 42. Que se passe-t-il ici Et en quoi cela révèle-t-il la providence de Dieu, même malgré le mal et la malfaisance humaine? La famine oblige Jacob à envoyer ses fils en Égypte pour acheter du grain. Ironiquement, c'est Jacob qui est à l'initiative du projet. Genèse 42, verset 1. Le malheureux vieil homme, victime de circonstances qui échappent à son contrôle, inaugure à son insu un enchaînement d'événements qui vont lui permettre de retrouver le fils qui pleure depuis si longtemps. La nature providentielle de cette rencontre est soulignée de deux façons. D'abord, elle est considérée comme l'accomplissement des rêves de Joseph. L'événement prédit dans les rêves prophétiques de Joseph, vos gerbes se prosternent devant ma gerbe, est en train de se réaliser. Joseph est identifié comme le gouverneur du pays et le maître du pays. La position de pouvoir de Joseph contraste avec celle de ses frères qui sont dans le besoin et qui se prosternent devant lui, face contre terre. Genèse 42, verset 6. Ces mêmes 10 frères qui s'étaient moqués du rêve de Joseph et qui avaient douté de sa réalisation. Genèse 37, au verset 8. Deuxièmement, cette rencontre providentielle est décrite comme une réponse. Les échos linguistiques et thématiques entre les deux événements soulignent le caractère de juste rétribution. L'expression « en se disant l'un à l'autre », Genèse 42, verset 21, était également employée quand ils avaient commencé à comploter contre Joseph, voir Genèse 37, au verset 19. Le séjour des frères en prison, Genèse 42, verset 17, fait écho au séjour de Joseph en prison, Genèse 40, verset 3 et 4. En fait, les frères de Joseph associent ce qui leur arrive à ce qu'ils ont fait vivre le frère il y a 20 ans. Vraiment, nous avons eu tort en ce qui concerne notre frère, car nous avons vu sa détresse quand il nous a suppliés et nous ne l'avons pas écouté. C'est pour cela que cette détresse est venue sur nous. Genèse 42, verset 21. Les paroles de Ruben, « Son sang est réclamé », Genèse 42, verset 22, qui font écho à son avertissement passé, « Ne répandez pas le sang », Genèse 37, verset 22, renforce le lien entre ce qu'ils doivent affronter et ce qu'ils avaient fait. La plupart d'entre nous avons forcément fait des choses que nous regrettons. Comment, dans la mesure du possible, peut-on réparer ce que nous avons fait? De plus, pourquoi le fait d'accepter les promesses du pardon que nous fait Dieu à travers Jésus est-il aussi crucial pour nous? Voir Romains 5 au verset 7 à 11. Mardi 14 juin. Joseph et Benjamin. Joseph ne pouvait pas donner facilement son accord au départ de Benjamin, le seul fils de Rachel qui restait encore. Il avait peur de le perdre comme il avait déjà perdu Joseph. Genèse 43, versets 6 à 8. Ce n'est que lorsque la nourriture fut totalement épuisée, Genèse 43, verset 2, et que Judas promit d'assurer le retour de Benjamin, Genèse 43, verset 9, que Jacob finit par donner son accord à une deuxième visite en Égypte et permit à Benjamin de partir avec ses frères. Lisez Genèse 43. Quel effet la présence de Benjamin a-t-elle sur le cours des événements? La présence de Benjamin domine les événements. Quand tous les frères se tiennent devant Joseph, Benjamin est le seul que Joseph voit. Genèse 43, verset 16. Benjamin est le seul à être appelé frère. Genèse 43, verset 29. Tandis que Benjamin est appelé par son nom, tous les autres frères ne sont pas identifiés. Ils sont simplement appelés des hommes. Genèse 43, verset 16. Joseph appelle Benjamin « mon fils » comme une expression rassurante d'affection particulière. Genèse 43, verset 29, voire Genèse 22, verset 8. La bénédiction de Joseph renvoie à la grâce. Genèse 43, verset 29, qui rappelle le moment où il avait demandé grâce à ses frères, mais qu'ils avaient refusé. Joseph rend à Benjamin la grâce qu'il n'avait pas reçue des autres frères. Tandis que les frères craignent d'être jetés en prison à cause de l'argent qui a été trouvé dans leur sac, Joseph leur prépare un banquet à cause de la présence de Benjamin. C'est comme si Benjamin avait une qualité rédemptrice sur toute la situation. Quand tous les frères sont assis en fonction de leur âge et dans le respect des règles de l'honneur, c'est Benjamin, le plus jeune, qui a servi 5 fois plus que tous les autres frères. Genèse 43, versets 33 et 34. Pourtant, ce favoritisme ne les gêne pas, contrairement à l'époque où Joseph était le préféré de son père. Bien des années auparavant, ce qui avait donné lieu à leurs terribles actes envers leurs demi-frères et leur père. Genèse 37, versets 3 et 4. Par cette préférence, Joseph espérait découvrir si Benjamin était comme il l'avait été lui-même, en butte à l'envie de la part de ses frères aînés. Ceux-ci, ignorant toujours que Joseph les comprenait, conversaient librement entre eux, ce qui permettait à celui-ci de découvrir leurs vrais sentiments. Décidé cependant à les soumettre à une épreuve décisive, il ordonna, avant leur départ, que sa coupe d'argent fût cachée dans le sac du plus jeune. Ellen White, Patriarche et Prophète, page 206. Mercredi 15 juin, Joseph, prince d'Égypte. La coupe de divination. Lisez Genèse 44. Pourquoi Joseph a-t-il mis la coupe de divination dans le sac de Benjamin et pas dans le sac d'un autre frère? Cette histoire coïncide avec celle qui précède. Comme avant, Joseph donne des instructions précises et à nouveau, il remplit les sacs des hommes de nourriture, mais cette fois Joseph ajoute un ordre étrange. Sa précieuse coupe doit être glissée dans le sac de Benjamin. Les événements prennent alors un tournant différent. Tandis que lors du voyage précédent, les frères retournèrent en Canaan pour prendre Benjamin avec eux, ils doivent cette fois retourner en Égypte pour affronter Joseph. Alors que dans la précédente situation, tous les sacs contenaient la même chose. Benjamin est à présent désigné comme celui qui a la coupe de Joseph. Contre toute attente, Benjamin, qui en tant qu'invité d'honneur avait accès à la coupe de Joseph, est à présent suspect et accusé d'avoir volé ce précieux objet. Il doit alors aller en prison. Le fait que Joseph utilisait une coupe de divination ne signifie pas qu'il croyait en son pouvoir. Joseph ne prétendait pas posséder l'art de divination. S'il leur laissait croire qu'il pouvait lire les secrets de leur vie, c'était simplement pour leur donner l'occasion de reconnaître leur péché. Ellen White, Patriarche et Prophète, page 207. La coupe magique était un prétexte pour que Joseph invoque le monde surnaturel et réveille ainsi dans le cœur de ses frères le sentiment de culpabilité envers Dieu. C'est ainsi que Judas interprète ce message sous-entendu de Joseph, car il parle de l'iniquité que Dieu a trouvée en eux. Genèse 44, verset 16. De plus, le vol de cette précieuse coupe justifiait cette punition sévère et mettait ainsi à l'épreuve le sentiment des autres frères. L'intensité de l'émotion des frères et leur réaction en disait long. Ils sont tous unis dans la même douleur et craignent pour Benjamin qui sera perdu, comme l'a été Joseph, et qui, comme lui, deviendra esclave en Égypte, bien qu'innocent, tout comme lui. C'est pourquoi Judas se propose pour devenir esclave à la place de Benjamin. Genèse 44, verset 33, tout comme le bélier a été sacrifié à la place de l'innocent Isaac. Voir Genèse 22, verset 13, Judas se présente en sacrifice comme un substitut dont l'objectif est précisément de s'occuper de ce malheur qui anéantirait son père. Genèse 44, verset 34. Quel principe d'amour illustré dans la réaction de Judas est sous-entendu dans le processus de substitution? En quoi ce genre d'amour explique-t-il la théologie biblique du salut? Voir Romains 5, au verset 8. Jeudi 16 juin. Je suis Joseph, votre frère. Lisez Genèse 45. Quelle leçon d'amour, de foi et d'espérance peut-on trouver dans cette histoire? C'est à ce moment précis que Judas parla du malheur qui attendrait à vie mon père, Genèse 44, verset 34, que Joseph cria, puis se fit reconnaître à ses frères. Cette expression, souvent utilisée quand Dieu se révèle, Exode 6, verset 3, Ézéchiel 20, verset 9, indique que c'est également Dieu qui se révélait ici. Autrement dit, le Seigneur avait montré que sa providence règne malgré les faiblesses humaines. Les frères de Joseph n'arrivent pas à en croire à leurs yeux et à leurs oreilles. Alors Joseph est obligé de répéter « Je suis Joseph, votre frère », Genèse 45, verset 4. Ce n'est que la deuxième fois, et quand ils entendent le mot précis « que vous avez vendu pour l'Égypte », Genèse 45, verset 4, qu'ils croient. Joseph déclare alors « Dieu m'a envoyé », Genèse 45, verset 5. Cette référence à Dieu a un double objectif. Elle sert d'une part à rassurer ses frères sur le fait qu'il n'a pas de mauvaises intentions envers eux, et d'autre part, c'est une profession de foi et une expression d'espoir, car ce qu'ils ont fait était nécessaire pour la grande délivrance et la survie d'un reste. Genèse 45 au verset 7. Joseph exhorte ensuite ses frères à aller voir leur père afin de le préparer à venir en Égypte. Il accompagne son appel par des mots précis concernant l'endroit où ils habiteront, c'est-à-dire Goshen, célèbre pour ses riches pâturages, le meilleur de tous les pays, Genèse 45, versets 18 et 20. Il s'occupe également du transport. Il fournit des chariots qui vont d'ailleurs convaincre Jacob que ses fils ne lui mentent pas sur ce qu'ils viennent de vivre. Genèse 45, verset 27. Jacob voit cette démonstration visible comme une preuve. Elle est aussi visible que Joseph est vivant et cela suffit à le ramener à la vie. Genèse 37 au verset 35, Genèse 44 verset 29. Tout s'arrange. Les 12 fils de Jacob sont vivants. Jacob s'appelle désormais Israël, Genèse 45, 28, et la providence de Dieu s'est manifestée de manière puissante. C'est vrai, Joseph a fait preuve de bienveillance envers ses frères. Il pouvait se le permettre. Comment apprendre à être bienveillant envers ceux qui nous ont causé du tort et qui n'a pas eu une issue aussi heureuse que pour Joseph? Vendredi 17 juin. Pour aller plus loin, lire Ellen White, Joseph en Égypte, pages 191 à 199, Joseph et ses frères, pages 201 à 218, dans Patriarches et Prophètes. Les 3 jours de détention furent des jours d'amère tristesse pour les fils de Jacob. Ils réfléchirent à leur mauvaise voie passée et notamment à leur cruauté envers Joseph. Ils savaient que s'ils s'étaient reconnus coupables d'espionnage et s'ils ne pouvaient apporter de preuves à leur innocence, ils mourraient tous ou deviendraient des esclaves. Ils doutaient que les efforts de quiconque seraient suffisants pour que Jacob consente à laisser partir Benjamin après la mort cruelle qu'avait, croyait-il, subi Joseph. Ils vendirent Joseph en esclave et ils craignaient que Dieu ne les punisse en le réduisant en esclavage pour le faire souffrir. Joseph considère que son père et les familles de ses frères souffrent peut-être de la famine et il est convaincu que ses frères se sont repentis du traitement cruel qu'ils lui ont infligé et qu'en aucun cas ils ne traiteraient Benjamin comme il l'avait traité lui. Joseph était satisfait. Il avait mis ses frères à l'épreuve et il avait vu en lui les fruits de la véritable repentance pour leurs péchés. Ellen White, Spiritual Gift, volume 3, page 165. À méditer. En classe, revenez sur la question posée à la fin de l'étude de jeudi. Pensez-vous que Joseph aurait été aussi bienveillant envers ses frères si les choses n'avaient pas si bien tourné pour lui? Bien sûr, il est impossible de le savoir avec certitude, mais quelles indications avons-nous dans toute l'histoire de Joseph et qui nous révèle le genre de caractère qu'il avait et qui pourrait expliquer sa bienveillance? De quelle manière peut-on voir en Joseph un type de précurseur de Christ et de ce que Christ a traversé? Joseph avait mis ses frères à l'épreuve. De quelle manière similaire Dieu nous met-il à l'épreuve? Même après toutes ces années, les frères se rendaient compte de leur culpabilité de ce qu'ils avaient fait à Joseph. Qu'est-ce que cela nous apprend sur la force de la culpabilité ? Et bien que l'on puisse être pardonné et accepter le pardon de Dieu, comment apprendre à nous pardonner nous-mêmes aussi indignes que nous puissions être de ce pardon ?